L'Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, Jean-Louis Bourlange, essayiste, et François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Nous commencerons par nous intéresser à la floraison, à l'efflorescence des candidats à un an de l'élection présidentielle. Le premier tour de cette élection se tiendra le 23 avril 2017 et une trentaine de candidats se sont déjà déclarés. Pour les Républicains, se sont mis sur les rangs François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé, Nadine Morano et sous réserve d'une prochaine confirmation, Michel Alliot-Marie. Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il n'annoncerait pas ses intentions avant l'été prochain, la date butoir étant fixée au 9 septembre. Le candidat de la droite sera choisi lors des primaires organisées le 27 novembre prochain si toutefois les partis du centre obtiennent un accord préalable et acceptent donc d'y participer. Ramayad, exclu du Parti radical en septembre dernier, a rejoint le peloton des candidats dans lequel Nicolas Dupont-Aignan avait pris place de longue date. À gauche, le Parti socialiste a accepté le principe d'une primaire de toutes les gauches qui se tiendrait en fin d'année 2016, mais la candidature supposée de François Hollande pourrait rendre problématique l'organisation de cette primaire, d'autant que le président du Parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, refuse de participer à une telle compétition et qu'il a présenté sa candidature dès le mois de février sans consulter le Parti communiste. Emmanuel Macron a lancé un mouvement politique baptisé En Marche mais sans se déclarer candidat alors que plusieurs sondages le présentent comme le présidentiable préféré des électeurs de centre-droit comme de gauche. Les mêmes sondages ne laissent guère d'espoir aux écologistes, même si Nicolas Hulot y fait honorable figure. Et côté Front National, ils annoncent que Marine Le Pen accéderait au second tour quels que soient ses adversaires au premier, et qu'elle l'emporterait même en cas de face-à-face avec François Hollande. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que cette floraison de candidats est en fait un effet assez trompeur, car en réalité, on est dans des situations très différentes à gauche et à droite. Je crois qu'à droite, tout ceci n'a pas grand sens. Je pense qu'il y a très peu de candidats qui sont crédibles. Ce sont toujours les mêmes. D'abord, évidemment, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui n'est pas mort, qui est certainement très mal dans les sondages, mais qui a de la ressource politique, qui a de la ressource partisane, qui a de la ressource rhétorique, qui est un homme de combat, de bataille, et qu'on aurait tort donc d'enterrer prématurément. On verra, tout dépend en fait de la façon dont la primaire se passera. Est-ce que la primaire sera à guichet fermé, et là Sarkozy aurait ses chances? Est-ce que elle sera très large, et là Sarkozy en aura moins. Quant aux autres, le combat entre Fillon et Le Maire, c'est incertain. On voit que Fillon remonte parce que il apporte un certain nombre d'idées, qu'il y a un besoin d'idées actuellement dans le. Mais en même temps, je ne pense pas que ça ira très loin. Et Le Maire apporte lui, comme Macron de l'autre côté, une espèce de besoin de jeunesse parce qu'on en a par-dessus la tête d'avoir ce jeu à guichet fermé. Tous les autres, ce sont des gens qui achètent un ticket pour être au gouvernement ou pour être quelque chose dans l'après-primaire. Le modèle ayant été fourni par la gauche, puisque ceux qui ont concouru à la primaire, comme à part Martine Aubry qui s'est muré dans un orgueil septentrional, les gens Valls d'abord et puis Montebourg ont effectivement occupé des positions de pouvoir sur la base de leur attitude aux primaires. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. À droite, on aura vraiment un nombre assez limité de candidats. La question qui est posée à gauche est très différente. À gauche, on a un problème très intéressant parce qu'on a un problème vraiment stratégique. En réalité, il y a deux lectures de la situation politique. Il y a qui sont première lecture que je dirais bipartisme, bipolarisation idéologique et tripartisme partisan. C'est-à-dire, en fait, maintien du clivage droite-gauche, à ceci près que la droite est divisée en deux du fait du Front National qui est même en dehors du clivage droite-gauche. Donc on a bien trois forces, mais le clivage fondamental, le clivage maintenu, c'est le clivage droite-gauche. Et ça, c'est la thèse de Hollande. Et Hollande dit, moi, je vais construire, si les indicateurs économiques sont pas trop mauvais, ce qui semble être le cas, je ne sais pas si la France va mieux, mais le cycle va mieux, en tout cas. Et c'était d'ailleurs prévu, je comprends pas du tout qu'on s'excite là-dessus. Il est même extravagant que le cycle ne soit pas retourné plus tôt, quand on voit les bonnes fées qui se posaient sur la croissance économique, qui veillaient sur la croissance économique depuis 2 ans, puisque cette embellie est due essentiellement au contre-choc pétrolier, à la baisse de l'euro et à la baisse des taux. La baisse des taux étant jouant un rôle très très important à la fois dans le soutien à la consommation et dans le soutien, et parce que ça conduit les gens à désépargner, et dans le soutien à l'investissement. Donc on a une situation économique et à part ça, on voit bien comment il va dessiner son affaire. Un, je défends le modèle social, donc c'est une ligne conservatrice par rapport aux réformes. Le Parti conservateur est très fort en France. Hein. C'est dire je changerai rien, c'est déjà avoir beaucoup de monde derrière soi. Donc le conservatisme social et le protectionnisme. Plus question, on en reparlera peut-être, de signer le TAFTA ou des choses comme ça. Et puis je rassemble un peu tout le monde. Et bien sûr j'aurai du Mélenchon, mais avec ça je serai au cœur de la cible. L'analyse de Macron est tout à fait opposée. C'est une analyse qui repose sur le tripartisme idéologique, c'est-à-dire il y a d'un côté un foyer de cohérence qui est centriste en réalité, social-démocrate ou social-libéral, ça peut se discuter, qui est, pour parler comme Raymond Barre, libéral-social-européen. Et puis, aux extrêmes, une droite et une gauche autoritaires, protectionnistes, étatistes, plus ou moins xénophobes à droite et un peu embarrassés à gauche, mais en tout cas très différents. Et Macron dit non sans raison, c'est là que ça se passe. Quel que soit le vote, l'avenir, le culbuto du pays reviendra à cet équilibre centriste, même si les centristes sont complètement nuls. Mais en même temps, politiquement, ça signifie une chose, et c'est ça, je crois, le pari de Macron, ça signifie quelque chose de très intéressant, mais que Hollande combat, qui est de dire le parti d'Épinay est mort, la gauche socialiste va se casser en deux. Quand nous aurons une gauche plus ou moins polarisée autour de Mélenchon ou des frondeurs, etc., d'un côté, il y aura toutes les forces réformistes de la gauche qui pourront fabriquer une majorité avec les forces réformistes de la droite, surtout c'est Sarkozy qui est candidat, qui sera un repoussoir pour le centre. Alors évidemment, c'est une politique avec des si, qui repose sur l'idée que Hollande ne serait pas candidat, et que Sarkozy gagnerait. Donc c'est extrêmement improbable, car ce qu'on voit cette semaine, c'est l'inverse, c'est-à-dire la machine hollandaise est en marche, et la machine hollandaise va quand même risque de broyer Macron. Et je pense que Macron a commis, la semaine dernière, une erreur importante, c'est d'ajouter à la transgression idéologique sociolibérale, qui est fort bienvenue dans le pays, une espèce de félonie, si je puis dire, anti-hollandaise, qui, elle, peut lui coûter cher. Il ne peut pas cumuler la remise en cause personnelle de Hollande avec la transgression idéologique. Donc je crois qu'il va avoir beaucoup de mal s'il ne plonge pas à nouveau, s'il ne s'enracine pas à nouveau dans un travail idéologique en profondeur.
Nicole Niesoto.
Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis en élargissant ces catégories à l'ensemble du spectre politique. Je crois que ce qui caractérise aujourd'hui le débat à droite et à gauche, c'est qu'on peut grosso modo distinguer trois camps. Il y a d'un côté les puristes, les traditionalistes du clivage droite-gauche, ceux qui pensent qu'il y a une différence entre les deux, qu'il y a des valeurs différentes, des projets différents. Et donc ça, on le retrouve au Parti Socialiste par le camp de Eo La Gauche, de M. Le Foll. On le retrouve à droite, chez les Républicains, pas Bruno Le Maire, qui incarne une conscience et une valeur et une prise de position vraiment à droite, mais absolument assumée. Donc ça, c'est le premier camp des traditionalistes puristes. On a un deuxième camp qui sont les modernes, ceux qui, dans chaque parti, veulent justement dépasser ce clivage droite-gauche au nom d'une modernité plus centriste, qui serait à la fois de droite et de gauche. Donc effectivement, au Parti socialiste, on a Emmanuel Macron avec son mouvement En Marche. Et puis, chez les Républicains, on a paradoxalement Alain Juppé qui incarne avec son grand âge exactement la même chose que Macron incarne avec sa genèse, avec son âge, disons, respectable.
En termes de grand âge, me paraît légèrement excessif.
Respectable.
Il est tout à fait admis à Esprit Public par son âge.
Mais bien sûr, bien sûr. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux, des deux générations différentes, quand même, incarnent la même modernité, la même volonté de dépasser ce clivage droite-gauche au sein de chacune des deux formations politiques. Et puis le troisième clan, ce sont ce que j'appellerais à la fois les opportunistes ou les alarmistes, ceux qui vont miser non pas sur l'opposition des partis, mais sur l'opposition entre les modérés et les extrêmes, entre les républicains et les anti-républicains, autrement dit ceux qui pensent qu'il faut ou qu'un front national important permettrait le réflexe républicain. Et donc à gauche, je crois qu'on a le président François Hollande qui est tout à fait sur cette ligne. Et à droite, je pense qu'on a Nicolas Sarkozy, même s'il ne s'est pas encore, lui non plus, déclaré comme candidat. Donc moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment, dans chacune des familles politiques, on a ces trois catégories. Mais au-delà de ça, je crois que cette floraison de candidatures, 27 à ce jour, moi, je trouve que c'est à la fois, ça pourrait être comique si ça n'était vraiment désolant. Je crois que c'est désolant sur l'état politique de la France pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette floraison de candidatures à droite comme à gauche montre qu'il n'y a pas de leadership évident et assumé. Nicolas Sarkozy ne l'est certainement pas pour le camp des Républicains, mais à gauche, le président de la République n'est pas le candidat naturel et légitime qu'il aurait dû être en raison de sa fonction. Deuxièmement, autrement dit, on a une pléthore de personnel politique, mais une insignifiance de leur représentativité citoyenne. Deuxième raison de désolation, c'est que cette multiplication de candidatures entraîne un primat à la personne par rapport au programme. Alors évidemment, ils écrivent tous des livres, certains sont des best-sellers, mais enfin, le débat aujourd'hui est polarisé sur l'individu, sa personne, son âge, ses petites phrases, etc. Alors que la France traverse une des crises les plus graves de son histoire et que moi je n'ai vu aucun projet pour la France dans la mondialisation à ce stade du débat politique en France. Et enfin, dernière raison de désolation, c'est paradoxalement en sourdine, en arrière-plan, le silence absolu de Madame Le Pen et du Front National. Je crois que moi, ce qui me frappe, c'est l'extrême agitation des candidats politiques à droite comme à gauche et le silence de Madame Le Pen qui est là, qui se prépare, qui elle a un programme, la France, les Français, la nation, programme que l'on connaît depuis toujours, qui lui manque son aggiornamento peut-être sur l'euro, mais on sent très bien sourde derrière cette montée en puissance du Front National dans la cacophonie générale des candidats.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je dois dire, je trouve très méritoire l'effort de Nicole Niesoto de classer rationnellement toutes ces candidatures. Et cet effort montre à quel point, justement, on est dans une situation totalement irrationnelle et je crois est inévitable compte tenu du contexte social et politique dans lequel on se trouve. Je crois que cette situation à un an de la présidentielle, bon, parce que c'est quand même dans un an, mais le fait qu'on ait en effet cette... ce bouillonnement de candidatures qui vont dans tous les sens montre à quel point notre politique est déchaînée au sens propre du terme. Alors, on a... Si vous regardez le calendrier aussi, par exemple, je ne sais pas ce que vous faites le 3 mai, mais si vous n'avez rien à faire, il y a plein de meetings et de réunions publiques déjà des candidats. François Hollande sera au Théâtre du Rond-Point. François Fillon, un grand meeting à Issy-les-Moulineaux. Je ne vais pas vous faire la liste, mais en lisant, je me suis aperçue, par exemple...
Vous avez rien de mieux à offrir.
Justement, alors qu'on n'est même pas... Enfin, on est seulement à un an. Donc, que Que conclure de cette grande excitation, à part se désespérer, il ne faut surtout pas se désespérer. C'est vrai que la seule chose sûre à ce stade, c'est Marine Le Pen. Elle est silencieuse, mais on sait très bien où elle va, et elle sait très bien où elle va. Et donc ça, c'est une... Et tout le monde se positionne effectivement, dans la mesure où les sondages montrent qu'elle sera inévitablement au second tour, on est déjà dans ces calculs-là, dans tous les états-majors. À droite, moi, je trouve que c'est encore un peu trop brouillon. On y reviendra peut-être. À gauche, c'est effectivement plus intéressant parce que on a là un débat qui ne porte pas seulement sur des personnes, mais aussi sur des stratégies, sur une restructuration idéologique. Le débat sur le clivage, où placer le clivage et l'évolution de ce clivage montre bien qu'on est en plein dans ce débat-là. Pour l'instant, il ne fait que commencer, mais enfin, on voit bien où se situe la confusion. Et ça pour deux raisons. D'une part, les sondages traduisent tous l'immense lassitude de l'électorat, pour ne pas dire le rejet de la politique traditionnelle, des classifications traditionnelles, du système politique, des politiciens traditionnels. Et cette lassitude est maintenant particulièrement perceptible au sein de l'électorat socialiste. On a publié dans Le Monde cette enquête annuelle Fracture française qu'on fait avec Ipsos. C'est qui traduit effectivement une grande désaffection. Les électeurs socialistes sont de plus en plus nombreux à juger que le système démocratique fonctionne mal. Ils sont très sévères sur les responsables politiques. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'être digéré par les états-majors. Et puis, il y a le facteur Macron, bien sûr, qui est un peu... Macron, c'est un peu le nuit debout du Parti socialiste. Il agite, on ne sait pas trop où ça va.
La
nuit debout du centre, c'est la nuit debout tout court, en fait. Et c'est aussi Macron, c'est comme je disais l'autre jour sur Nuit debout, c'est un moment, il est plus significatif parce qu'il reflète en somme que parce qu'il fait vraiment. Et l'engouement qu'on relève à son égard, bon, est dû d'une part à sa personnalité, bien sûr, qui avait son charme, sa fraîcheur et sa chaleur en même temps, qui manque certainement à beaucoup d'autres hommes et femmes politiques. Aussi ce grand coup de pied dans la fourmilière qu'il donne et que les gens apprécient, qui traduit aussi un debout. Voilà. La vraie question, moi, je trouve, c'est que, pour terminer sur cet angle-là, c'est que, alors que toutes les études, toutes les enquêtes journalistiques, toutes les études sociologiques, toutes les expressions publiques citoyennes traduisent un profond malaise et des questions extrêmement profondes et importantes qui remettent en cause tout notre système, pour l'instant, on n'a pas l'ombre d'une réponse de la part des politiques.
François Bujon de l'État.
Je ne peux pas m'empêcher de commencer par une remarque de type institutionnel. Je suis frappé de voir que nous sommes à 12 mois des présidentielles, que ça fait déjà 18 mois que tout le monde est en train d'organiser son action exclusivement en fonction de cela, et de voir le point auquel la vie politique française est totalement dominée, totalement polarisée autour de l'élection présidentielle. Et dans ce domaine, évidemment, la relativement récente réforme constitutionnelle qui est passée du septennat au quinquennat a une lourde part de responsabilité, puisque auparavant, la vie institutionnelle était rythmée par d'autres élections. Les législatives n'étaient pas en même temps que les présidentielles. Il y avait une respiration démocratique, si vous voulez, qui aujourd'hui n'est plus fournie que par des élections locales. Et comme on l'a vu, les élections locales, ce sont toutes organisées en fonction de la future échéance présidentielle. On est donc bien dans cette situation de polarisation totale. Et le fait qu'avec le quinquennat, maintenant, les élections législatives aient été fixées et resteront toujours concomitantes à l'élection présidentielle, vous avez un verrouillage complet de ce rythme démocratique qui est quand même très très frappant. Donc voilà, l'obnubilation de l'élection, ou dans certains cas de la réélection, est évidemment très 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 frappant. Ça, c'est une première chose. Une seconde remarque, c'est que je suis frappé par l'asymétrie qui existe pour l'instant, l'asymétrie L'apostrophe, je veux dire, qui existe pour l'instant entre la droite et la gauche à un an de cette élection. La droite, au fond, on peut en penser ce que l'on veut, mais elle sait à peu près où elle va. Elle a organisé des primaires, les candidats se sont déclarés. On sait bien que la décantation va se faire avec le jeu, bien entendu, des parrainages, et que des 12 candidats, 12 plus, puisque ni M. Sarkozy, ni Mme Alliot-Marie ne sont encore sortis formellement du bois, on va tomber à 4 ou 5 probablement. Mais la droite sait où elle va, elle se dirige en ordre, je dirais pas en ordre de bataille, mais en assez bon ordre vers des élections primaires, qu'elle va s'efforcer d'organiser aussi bien que possible. Les candidats cherchent à se singulariser en échafaudant des programmes ou des esquisses de programmes, en publiant des livres, en énonçant leurs idées. Et voilà. Face à cela, nous avons une gauche qui, au fond, ne sait pas, elle, où elle va. Elle a un président sortant, qui cherche à entretenir le suspense sur le point de savoir s'il se représentera ou s'il ne se représentera pas. Il y a des gens de tout poil qui ne sont pas satisfaits de ce quinquennat et qui veulent organiser une primaire. Et une primaire avec un candidat sortant, c'est évidemment quelque chose non seulement de tout à fait inédit, mais de tout à fait scandaleux. Il y a des personnalités qui ont des ambitions présidentielles, comme M. Valls ou maintenant M. Macron, d'après ce que l'on voit, dont on se demande ce qu'elles vont faire. Vont-elles rester au gouvernement? Vont-elles en sortir? Vont-elles se présenter? Vont-elles jouer le jeu des primaires, s'il y en a, ou au contraire se situer en dehors, comme M. Macron pourrait être tenté de le faire? Où va le Parti socialiste, dont le clivage idéologique est évidemment très, très, très frappant? Tout cela est évidemment très confus par rapport à la clarté relative qui règne du côté de la droite, qui se dirige donc vers ses primaires. Alors, au milieu de tout ça, le paysage reste quand même très très flou. On peut essayer de classer par colonne. Dans la colonne des certitudes, il y en a quelques-unes. Marine Le Pen sera au deuxième tour. C'est quasiment une certitude pour l'ensemble de la classe politique. Le Parti socialiste est très affaibli et de toute façon, indépendamment du Parti socialiste, il y aura d'autres candidats à gauche. Monsieur Mélenchon, même dans les sondages pour l'instant, a de très bons scores. Monsieur Hollande ne pense qu'à sa réélection. C'est pour moi dans la colonne des certitudes et le suspense qu'il entretient est artificiel. Monsieur Sarkozy, bien sûr, va se présenter et rêve de revanche. Et les Français ne veulent ni de Hollande ni de Sarkozy, c'est ce que disent les sondages. Ça, c'est la colonne des certitudes. En face, il y a la colonne des incertitudes. Quel candidat sortira des primaires de la droite? Monsieur Bayrou sera-t-il ou ne sera-t-il pas candidat? Il peut être tenté de l'être si c'est Monsieur Sarkozy qui gagne la primaire de la droite. Donc le point reste encore mystérieux. Y aura-t-il à gauche un candidat vert? Et si oui, lequel? Y aura-t-il des primaires à gauche? Quel rôle pour Monsieur Macron? Quel sera le degré de mobilisation de l'électorat et notamment de la gauche? Et puis il y a bien sûr la colonne des secrets de Polichinelle dans laquelle je range la candidature de M. Sarkozy et celle de M. Hollande.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Nicole. Je suis moins alarmiste qu'elle sur la situation réelle de la politique. Je ne crois pas que le fait qu'il y ait pléthore de candidats soit en soi quelque chose de grave. Je crois que nous sommes effectivement dans une période antérieure à la décantation. D'abord, cette pléthore, elle n'existe qu'à droite. Et la décantation va se faire pour des raisons institutionnelles qu'a évoqué François, notamment les questions du parrainage et puis les questions politiques. Je pense que nous avons un certain nombre de candidats. Bon. Deuxièmement, je ne trouve pas que ces candidats soient nuls. C'est peut-être pas des surhommes. Peut-être qu'enfin, on arrive à l'ère des présidents normaux, annoncés par Hollande. Ce sont peut-être pas des surhommes, mais je trouve que les uns et les autres sont des gens de relative qualité. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la dégradation de la qualité du personnel politique dans son ensemble, et qui est très fortement alimentée par des courants populistes, comme ceux que fait naître M. Le Maire, par exemple. Quand Le Maire dit, quand on est fonctionnaire, il faut démissionner avant d'être élu, et deux, qu'on ne peut pas faire plus de 3 mandats, ça veut dire qu'il condamne tout un ensemble de gens de cette catégorie à ne pas être députés, à ne pas être candidats, puisque ils quittent leur profession et ils ne peuvent pas garder leur mandat éternellement, ce qui est totalement contradictoire. Et donc, ils ont comme seul destin, ils ont la NPE, enfin le Pôle emploi, ce qui n'est pas satisfaisant. Donc, on va avoir non pas une montée en puissance du privé, mais un retrait du public. Or, je signale par exemple que les énarques, pour ne citer qu'eux, c'est epsilonesque dans l'Assemblée nationale actuelle. Donc on a quand même un personnel politique qui est de plus en plus fait de petits communicants d'élus municipaux, ou départementaux ou régionaux. Ça n'est pas de bonne qualité. Là, je suis inquiet. Bon, alors, au-delà de ça, je trouve que la catégorisation de Nicole est parfaite. Nous avons effectivement la droite-gauche, les modernisateurs et les contestataires. Je trouve que c'est très bien. Simplement, je pense qu'il faut sur le droite-gauche, on voit bien, mais je mettrai Hollande à la place. Je mettrai Hollande dans le droite-gauche et non pas dans cette catégorie à part. Car en réalité, on voit bien que le droite-gauche est tenu par Hollande d'un côté, Sarkozy et Le Maire de l'autre. Vous avez raison de dire Le Maire, il faut rajouter Sarkozy. Il y a le vieux droite-gauche, Sarkozy, et le jeune droite-gauche, Le Maire. Et là, on a une polarisation intéressante, et on voit bien comment Le Maire se situe dans sa campagne actuelle. Il attaque à fond Juppé, non pas du tout pour démolir simplement Juppé, mais parce qu'il attaque le centrisme de Juppé pour occuper la place de droite de Sarkozy. Deuxièmement, sur les modernisateurs, je crois que là aussi, il faut faire une distinction. On met Juppé et Macron. Et là, on voit bien la grande différence des stratégies centristes. La stratégie centriste de Juppé, c'est la même. Enfin, il n'est pas tout à fait centriste, mais c'est la même que celle de Giscard. C'est-à-dire, je prends des idées libérales, sociales, européennes, je reprends ma définition classique, et j'essaie d'organiser une hégémonie au sein du camp de la droite de cette famille libérale, sociale, européenne par rapport à une famille conservatrice, protectionniste et anti-européenne. Bon, c'est ça. L'idée de Macron est beaucoup plus proche de la tradition centriste Le Canuet, Poher, Servan-Schreiber, François Bayrou, c'est-à-dire je récuse le droit de gauche et je forme une majorité avec la gauche de la droite et la droite de la gauche. Et ça, c'est très intéressant. C'est vrai que idéologiquement, ça n'a jamais été aussi porteur que maintenant, mais ça se heurte quand même à de grandes traditions de gauche. Et dernière chose, finir ses raisonnements que de les interrompre.
Nicole Desoto.
Deux points rapidement. Sur Macron, je ne sais pas si c'est un moment, mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est un avenir. Et ce qui est intéressant dans le débat aujourd'hui, c'est qu'on a deux débats présidentiels pour le prix d'un. C'est-à-dire, on a le débat présidentiel de 2017, et puis on a déjà le débat présidentiel pour 2022, et on voit bien comment certains se positionnent déjà, à droite comme à gauche, sur cette élection. Deuxièmement, pour Jean-Louis, pourquoi j'attends plutôt un homme providentiel, et plutôt que ce personnel politique que l'on connaît, mais qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle? C'est parce que si, comme tous les sondages le montrent, si Madame Le Pen est sûre d'être au deuxième tour, alors il faudrait vraiment que les appareils politiques se mobilisent pour trouver le candidat providentiel, exceptionnel, qui l'empêchera d'être présidente de la République. Et c'est pour ça que moi j'attends effectivement une personnalité qui soit au-delà.
Pardon. François Bujon. Deux toutes petites remarques sur ce qui a été dit. La première, c'est que Nicole, je crois, a parlé du silence de Madame Le Pen, qu'elle trouve menaçant, effectivement. Mais ce silence traduit peut-être aussi un embarras sur le thème du programme, justement. Autant Marine Le Pen a toujours défendu avec beaucoup de vigueur les valeurs, la vision générale qu'elle a de la société, de l'Europe, de l'immigration, de tout ce que vous voudrez, autant les critiques contre le parti du Front National, qu'elles viennent de gauche ou de droite, sont en train de se focaliser sur les faiblesses du programme du Front National. Et je pense personnellement qu'il y a pour l'instant un temps de réflexion au sein du FN sur la faiblesse ou les faiblesses de leur programme. Deuxième remarque très rapide sur la pléthore de candidats. Elle me paraît être un sous-produit du sentiment général d'usure du système
et de discrédit de la classe politique. Puisqu'au fond, regardez les élections américaines qui sont dans le calendrier parallèles aux nôtres. Il y avait 17 candidats pour le seul parti républicain aux États-Unis. Et c'est un peu comme chez nous avec notre multiplicité de candidats à droite. Je crois vraiment que la raison, elle est le discrédit de la classe politique et la recherche de visages nouveaux.
C'est lui, Kaufmann, pardon.
Juste une chose sur Emmanuel Macron. Il a un avenir, certainement. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais souligner, pardon, l'effet salutaire de son intervention dans le débat et qui va bien au-delà du côté chouchou de l'opinion qui excite tellement, je dois dire, tous mes amis des médias. Je crois que la manière dont il dérange politiquement à la fois les états-majors et la nature du débat est tout à fait salutaire pour l'instant.
Jean-Louis Bourlange.
Écoutez, moi j'ai simplement terminé mon raisonnement de tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai abordé le troisième volet très rapidement, les contestataires, c'est-à-dire Le Pen. Et je voulais dire que Le Pen et Mélenchon étaient évidemment en position d'embuscade. Je suis moins anxieux que Nicole sur le danger de Le Pen, sauf dans une seule hypothèse, c'est l'hypothèse d'une crise générale de l'Union européenne, qui pourrait être favorisée par les crises à l'Est, surtout par le Brexit. Là, si véritablement l'Europe explose, Madame Le Pen prend une dimension, le plafond de verre saute. Mais je ne crois pas fondamentalement à cette hypothèse, et je crois qu'en fait, sans homme providentiel, comme on l'a vu au régional, le système va fonctionner, parce que Le Pen reste le candidat le plus détesté des Français, ce qui est quand même satisfaisant pour le niveau intellectuel et moral de la population.
Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions à la visite du président Obama en Europe et aux négociations autour du TTIP. Dimanche dernier, les dirigeants américains, européens et allemands se rencontraient à Hanovre, tandis que débutait dès le lendemain à New York le 13e cycle des négociations autour du projet de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Europe et les États-Unis, désigné par les acronymes TTIP ou TAFTA. Ce projet de zone libre-échange a été lancé début 2013 par Barack Obama et les dirigeants de l'Union européenne de l'époque. La Commission le résume en trois grandes parties: la réduction des droits de douane sur les marchandises et la facilitation de l'accès des sociétés de services aux marchés étrangers, l'accroissement de la coopération réglementaire par l'unification des normes entre les marchés européens et américains, et l'établissement de règles communes dans des domaines aussi délicats, entre autres que la propriété intellectuelle, l'origine des produits alimentaires ou les mécanismes de règlement des conflits. Depuis 3 ans, les discussions ont été entravées par les nombreux désaccords entre l'Europe et les États-Unis et l'opposition grandissante de l'opinion publique européenne à un projet sur lequel les principaux candidats à la présidentielle américaine, Hillary Clinton, Donald Trump et Bernie Sanders, ont émis des réserves. À la mi-avril, François Hollande a fait savoir que la France pourrait s'opposer au projet si les conditions de transparence et de réciprocité n'étaient pas renégociées. Ce refus serait décisif car pour être définitivement approuvé, l'accord de libre-échange devra recevoir les suffrages des 28 États membres de l'Union européenne ainsi que du Parlement européen. Et par ailleurs, la Grèce affirme déjà qu'elle ne signera sous aucune condition. Parallèlement, un accord de partenariat transpacifique a été signé en février dernier par 12 pays, parmi lesquels les États-Unis, le Canada, des pays d'Amérique centrale comme le Pérou et le Mexique, et des pays d'Asie, entre autres le Japon, la Malaisie et Singapour. En supprimant les barrières au commerce, services et investissements, le traité rassemble des membres qui représentent près de 40% de l'économie mondiale. Enfin, en visite en Europe, le président Obama a défendu le TTIP et espéré la signature d'ici la fin de l'année. De passage à Londres, il s'est prononcé contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en précisant qu'en cas de Brexit, la Grande-Bretagne se trouverait alors, je cite, « à l'arrière de la file d'attente » dans les relations avec les États-Unis, et le président américain a aussi défendu la nécessité, je le recite, d'une Europe forte, prospère, démocratique et unie. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Bon, j'aime bien qu'on parle de la visite d'Obama en Europe, en commençant par le château de Windsor et Londres, puisque ça prouve qu'on inclut décidément la Grande-Bretagne en Europe. Et c'est d'ailleurs ce que Obama a fait gaillardement, puisqu'il est venu, au fond, au Royaume-Uni, puis en Allemagne, mais avec très clairement au Royaume-Uni une intention évidente qui était de prêcher pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Il l'a fait avec énormément de vigueur. Il a dit, en effet, aux opposants à l'Europe que toute idée que le Royaume-Uni pourrait ensuite renégocier d'autres arrangements commerciaux avec les États-Unis était illusoires, ils iraient au bout de la queue, dit-il, et il ajoute que les États-Unis entendent négocier avec un grand ensemble économique qui est l'Union européenne. On pouvait difficilement prendre parti aussi clairement et aussi vigoureusement qu'il l'a fait, et c'est ce qu'il faut retenir de cette visite à Londres, indépendamment de son aspect, je dirais, protocolaire et affectif, puisqu'il est allé rendre hommage aux 50 ans de règne de la reine d'Angleterre, avec affection, il est allé...
À ses 90 ans, à ses 90 ans. Non, pas à ses 90 ans de règne, mais à ses 90 ans d'âge.
À ses 90 ans, mais elle est maintenant... oui,
elle a dépassé la reine Victoria, c'est 63 ans.
Ayant 90 ans, ça fait longtemps qu'elle règne.
Ayant 90 ans, ça fait très très longtemps qu'elle règne. Je dis 50 ans, mais en réalité, je suis très en retard sur la pendule. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, cet hommage rendu était également une façon de cultiver le fameux special relationship qui est tellement cher aux Britanniques et assez largement inconnu des Américains. Et au fond, en disant que la Grande-Bretagne en aurait qu'à faire la queue comme tout le monde, M. Obama, au passage, a délivré un coup de patte au special relationship. Sa deuxième visite a été, bien entendu, pour Hanovre. Il a pris le prétexte de la foire de Hanovre. Il a dit son admiration pour Mme Merkel. Il a fait profession d'amitié avec elle, mais il a fait plus que cela. Il a reconnu, au fond, par cette simple présence, par ce simple déplacement, le leadership allemand en Europe. Et il a tenu des propos très positifs sur l'Union européenne, qui ne sont pas du tout classiques dans sa bouche, puisqu'il a été jusqu'à dire « Il faut sans doute que quelqu'un qui ne soit pas européen vous le dise, pour que vous, Européens, vous compreniez l'ampleur de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli. » C'est un hommage tout à fait remarquable, et il est très très singulier qu'il soit allé le faire en Allemagne avec une démonstration, encore une fois, de beaucoup de chaleur et d'amitié pour Mme Merkel. Retenons au passage simplement, mais ça va de soi, qu'il n'est pas venu s'arrêter en France ni en Italie et qu'on a donné simplement un tout petit lot de consolation à M. Hollande et à M. Renzi en les invitant à un sommet de 2 heures au cours duquel on a parlé, bien sûr, des sujets du jour, mais pas du tout du TTIP, qui était pourtant, bien entendu, le projet que M. Obama voulait faire progresser.
Nicole Desotto.
Oui, si la diplomatie des lieux a un sens, comme disait le général de Gaulle, là c'est quand même très intéressant de voir qu'Obama fait Londres, Berlin, Varsovie et que Paris est complètement squeezé dans ce paysage. Mais moi je voudrais revenir sur Obama et l'Europe. Je crois que pour le président des États-Unis, l'Europe c'est un peu, c'est à la fois une immense déception et c'est le principe de réalité de sa politique étrangère. Je m'explique. Quand Obama prend le pouvoir, il a une vision du monde qui est un monde parfaitement global, mondialisé, dans lequel l'Europe n'existe pratiquement pas ou très peu. L'Europe, c'est le problème du passé, ça n'est plus pour lui un enjeu de la mondialisation. Alors il était venu de façon triomphale à Berlin en 2008 pendant sa campagne électorale, mais ensuite ses grands discours, c'est ailleurs. C'est le Caire par exemple, donc il a une vision du monde où l'Europe n'est plus un problème, c'est une annexe de l'Occident, de l'Amérique. Et il est obsédé pendant tous ses 2 mandats par le désengagement de l'Amérique, le désengagement de l'Europe, le désengagement du Moyen-Orient, le désengagement de l'Afrique, c'est-à-dire le désengagement des problèmes du passé. Et tout son objectif, c'est de se tourner vers l'avenir, le 22e siècle, la Chine, les technologies du futur, etc. etc. Et donc, et vis-à-vis de l'Europe, donc, il a une attitude qui pourrait être de benign neglect, de bienveillance et de négligence à la fois, mais ça n'est certainement pas le point central de sa politique étrangère. Or, 8 ans après, c'est le retour du refoulé européen. C'est le retour du principe de réalité, c'est-à-dire cette grande vision du monde obamesque, mondialisé, dans lequel l'Europe n'est plus un problème, se révèle fausse. L'Europe est un problème et redevient un problème pour les États-Unis. D'une part parce qu'elle est un tout petit peu menacée de l'extérieur, parce que personne ne sait trop ce qu'il y a dans la tête de M. Poutine, mais surtout parce qu'elle est menacée par ses propres démons intérieurs qui reviennent. L'affaire du Brexit, c'est bien au-delà de la special relationship. Je crois que c'est profondément là, le signal d'un malaise du lien que n'a pas réussi à créer l'Europe entre l'intégration européenne et le respect des souverainetés nationales d'un côté. Donc il y a quelque chose de très grave dans le risque du Brexit. Et puis la montée de la xénophobie de l'extrême droite dans plusieurs pays européens, dont l'Autriche encore récemment, après la Pologne, la Hongrie, même le Danemark par exemple. Tout ceci fragilise la pensée que Obama pouvait avoir d'un continent pacifié et sortir de l'histoire. Et je crois qu'il y a quelque chose pour moi de surréaliste de voir ce président vanter aux Britanniques le mérite de l'Union européenne et aux Européens le mérite de la puissance de l'Europe, de l'idée d'une Europe forte dans le monde. Et de la démocratie, absolument, et les mérites de la démocratie. Je trouve qu'il fait son travail formidablement bien, et ce retour d'un Obama européen, c'est le signe très fort du malaise et de la crise européenne.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je ne serai pas aussi sévère que vous sur l'absence de la France dans la tournée d'Obama. Je sais qu'on est, il est de tradition toujours de dire qu'on est les plus maltraités et les plus mauvais. Mais là, en l'occurrence, je crois que Obama s'est surtout concentré sur les deux pays où il y avait le plus de problèmes, enfin, qui lui posaient à lui, dans son retour en Europe, en effet, qui est très frappant. Obama, l'homme du Pacifique, le premier président du Pacifique, qui finalement se rappelle que l'Europe peut aussi être source de problèmes. Et donc, c'est la Grande-Bretagne qui lui pose ce problème de la menace du Brexit, qui effectivement aurait des conséquences catastrophiques également pour les États-Unis, en particulier dans les perspectives de conclure le TTIP. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, ça, tout ça devient plus compliqué. Et puis l'Allemagne est un problème, d'une part parce qu'elle est en première ligne sur la crise des réfugiés, qui est une crise majeure, et puis aussi parce que la relation américano-allemande est très tourmentée. Elle a été très tourmentée ces derniers temps. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas parlé des choses qui fâchent pendant cette visite à Hanovre, enfin pour autant qu'on sache, mais l'affaire Snowden a quand même fait plonger les relations entre Berlin et Washington au plus bas. Et je pense que l'impact négatif que cette affaire Snowden avec, je vous rappelle, le téléphone portable de Angela Merkel qui était mis sur écoute et bien d'autres choses bien pire et de bien plus large portée encore. Cette crise a, je pense, est un facteur dans l'hostilité actuelle de l'opinion publique allemande à l'égard du TTIP et de la classe politique allemande. Vous avez quand même quelqu'un comme Sigmar Gabriel qui sera sans doute le challenger de Madame Merkel si elle se représente aux prochaines élections, donc le leader du parti social-démocrate allemand, du SDP, qui est ouvertement hostile au TTIP et qui dit « Moi, je n'ai aucun problème à ce que ce traité échoue si les conditions que nous posons ne sont pas remplies. » Donc je crois que c'est aussi pour ça que Obama s'est concentré sur l'Allemagne plutôt que sur la France. C'est vrai que la France n'a pas le poids politique de l'Allemagne, etc. Mais je crois que la relation franco-américaine est relativement apaisée. Elle est très forte sur le plan sécuritaire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la lutte contre le terrorisme que ne font pas les Allemands. Voilà. Et donc ça peut expliquer pourquoi effectivement le président Obama s'est contenté d'inviter François Hollande à un strapontin.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, c'est effectivement très passionnant ce voyage. J'ajouterais au contentieux américano-allemand les différences d'appréciation d'ordre économique. L'ordolibéralisme allemand et le néo-keynésianisme anglo-saxon et notamment américain, ça ne va pas très bien ensemble. Il y a eu beaucoup de reproches. Donc je crois effectivement qu'il est allé là où il y avait des problèmes et chez nous, il n'y avait ni aucune raison, ni positive ni négative, de parler avec les Français. Sur le fond des choses, je crois que c'est très intéressant l'attitude de... D'abord, c'est en France... Si Obama était venu en France pour dire « vous devez pas sortir de l'Europe », ça aurait été comme le manifeste de Brunswick, quand Brunswick a dit « si vous touchez à la tête du roi, à la personne du roi, ça sera Paris sera détruit », aussitôt, on a détruit la monarchie et on a fait Valmy. Là, les Anglais ont réagi de façon beaucoup plus ambiguë pour une raison simple, c'est que traditionnellement, dans l'esprit de ceux qui sont pour le Brexit, il y a le vieux choix churchillien, exposé au général de Gaulle, entre l'Europe et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Et ce qu'est venu dire Obama, c'est le grand large vous dit choisissez l'Europe. Donc là, il y a quand même quelque chose qui prend complètement à contre-pied les partisans du Brexit. Deuxièmement, Ceci correspond en plus à l'attitude des Européens. Il y a eu un tas d'indiscrétions émanant des milieux de Bruxelles qui montrent que de toute manière, s'il y a Brexit, il y aura une dureté accrue de l'Union Européenne, que par exemple, on n'ira pas au-delà des 2 ans de négociation, le traité prévoit 2 ans et plus si nécessaire, qu'on ne signera aucun accord commercial, ça c'est la même menace que celle de Obama, avant que le Royaume-Uni sera sorti, donc on recommencera tout à zéro, et ensuite qu'on changera l'équipe. Pour l'instant on a une équipe, on dirait de good cops, conduite par Jonathan Fall, que nous connaissons bien, notamment Nicole et moi, puisque nous participons à des associations communes, et qui va être remplacé par des bad cops, des méchants qui vont dire non, ça sera une autre équipe, l'équipe qui a négocié l'accord sera pas du tout là, elle sera écartée au profit d'une équipe qui va monter en difficulté. Et la troisième chose qui n'était pas présente, mais qu'on entendait très fort, même s'il ne la disait pas, chez Obama, c'est le TIPP, c'est la thèse du cheval de Troie. L'idée implicite, c'est que si l'Angleterre, le Royaume-Uni est le cheval de Troie de l'Amérique dans l'Europe, il vaut beaucoup mieux que le cheval de Troie soit à l'intérieur des murailles et pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur de Troie, il ne sert à rien. Donc on a, je crois, ce triple message qui est évidemment très déstabilisant. Sur le fond d'Obama, par rapport à l'Europe, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicole, je crois que le pivot a été entravé. Le pivot de la diplomatie américaine devait s'écarter de l'Europe et du Moyen-Orient pour aller vers le Pacifique. Le Moyen-Orient est à feu et à sang et tout échappe. La Turquie, Israël, l'Arabie Saoudite, tout échappe aux États-Unis et donc ils sont obligés d'y retourner. Et quant à l'Europe, on a Poutine. Et alors ce que dit Obama, et qui est quand même quelque chose d'évident, mais de très fort et de très simple, son discours sur l'Europe, les défenseurs de l'Europe devraient s'en inspirer, de dire, mais comment pouvez-vous imaginer un seul instant que vous ferez face aux difficultés actuelles en étant désunis au lieu d'être unis? Ce message simple, il devrait s'imposer à tout le monde. Manifestement, ce n'est pas le cas.
François Bujon de l'Étang.
Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit et par Jean-Louis et par Nicole sur le retour de l'Europe dans les préoccupations d'Obama. C'est quand même très frappant, c'est vrai. Lorsqu'il a été élu président, l'Europe n'était pas sur son écran radar, elle ne posait pas de problème. Et non seulement elle ne posait pas de problème, mais elle ne pouvait pas en plus contribuer à la solution des problèmes qui se posaient. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, il revient dans un contexte complètement différent. Le pivot, en effet, Jean-Louis, est entravé par le fait qu'il y a des pesanteurs européennes, comme il y a des pesanteurs moyen-orientales qui l'empêchent d'effectuer ce mouvement qu'il aurait voulu faire. L'Europe est redevenue un problème, et elle est redevenue un problème majeur. Et c'est certainement l'inquiétude qui a été le moteur principal de cette visite d'Obama. Il avait d'autres préoccupations, des préoccupations testamentaires, parce qu'il est dans sa dernière année, qu'il pense à son héritage et qu'il voulait pousser l'accord de libre-échange. Mais c'était tout à fait second par rapport aux inquiétudes qu'il éprouve et aux frustrations qu'il avait d'ailleurs exprimé de façon très crue dans une interview récente à l'Atlantic Monthly dont nous avons déjà parlé. Son inquiétude, c'est la fragmentation de l'Europe, le risque d'éclatement, et en effet, s'il est allé prêcher contre le Brexit, ce n'est pas du tout pour sacrifier au special relationship, c'est parce qu'il veut lutter contre ce risque d'éclatement de l'Union européenne et de fragmentation, et c'est la montée des périls qui se résume par la politique de M. Poutine, évidemment, en Europe de l'Est, et ce retour de l'impérialisme russe, et par le problème des réfugiés qui casse l'Europe en deux.
Nicole Nisotto.
Moi, je crois qu'on est presque à la veille d'un nouveau malentendu transatlantique, parce que d'un côté, les Européens se félicitent de ce retour d'Obama par le biais de l'OTAN pour les protéger de la Russie, par le biais du TAFTA pour faire une grande zone de prospérité, en se disant « America is back ». Et les États-Unis, c'est l'inverse. Monsieur Obama est furieux, enfin une espèce de ressentiment, de frustration, et il se dit pas que l'Amérique est de retour en Europe, il se dit le passé is back. Les mauvais penchants de l'Europe sont de retour, et cela gêne profondément donc la diplomatie américaine et ses successeurs. On n'a pas encore une claire vue de ce que penseront les républicains ou les démocrates dans les élections américaines, mais je crois que les Européens doivent s'attendre à vraiment des crises à l'avenir. Un mot sur le TAFTA, si je je peux. Moi, ce que je vois dans la négociation de ce traité, c'est peut-être quelque chose qui ressemblerait à l'état des relations transatlantiques pendant la crise des euromissiles entre 83 et 86, où on avait à l'époque les oppositions, non pas entre les gouvernements américains et les gouvernements européens, mais on avait les gouvernements tout entiers. Et les rues. Les rues allemandes, britanniques, étaient contre les euromissiles. Et j'ai l'impression que sur le TAFTA, on revoit quelque chose de cet ordre, où les gouvernements sont plutôt favorables, notamment le gouvernement américain, le gouvernement allemand, les gouvernements suédois, finlandais, enfin, tous les nordiques, d'un côté, et les rues, la rue européenne est très très hostile.
C'est lui, Kaufmann.
Juste une petite chose, puisqu'on parlait de ce discours de Barack Obama à Hanovre, qui est un beau discours et que je vous invite à lire si vous le pouvez. Il y a une phrase qui m'a frappée, il dit « Les forces du danger menacent de tirer le monde en arrière, le progrès n'est pas inévitable. » Et oui. Quand il dit ça, on se doute qu'évidemment il s'adresse aux Européens et il parle de l'inquiétude, il exprime l'inquiétude que lui inspire la situation en Europe, mais on peut aussi lire en filigrane une inquiétude sur les États-Unis et sur toute la rhétorique de la campagne électorale actuelle aux États-Unis, notamment émanant des formidables discours dans un autre genre de Donald Trump, The Donald.
Jean-Louis Bourlon.
Oui, juste un mot pour dire que, compléter ce que dit Nicole Niesoto, elle est dans le sens de Sylvie, c'est le refus du TAFTA, la tentation protectionniste, elle est très vive en Europe. On le voit, même le raidissement du gouvernement français, elle est très vive aux États-Unis. Oui. Quand même, entre Trump et Clinton, on est dans un courant vraiment protectionniste. Et ça inquiète, parce que il faut quand même se dire que depuis 1945, le développement du commerce international par un abaissement régulier des obstacles tarifaires et non tarifaires a été une des clés du développement économique. Et je crois que la grande question du protectionnisme, elle doit être posée autrement que par le biais des petites querelles qui agitent actuellement le landerneau national ou européen. Et Obama en est parfaitement conscient, mais il est seul.
Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brefs. Je l'ouvrirai en soulignant qu'un accord a été trouvé pour les intermittents du spectacle, en rappelant que le système de l'intermittence du spectacle est un système appelé à un grand avenir, et qu'il suffit dans le monde de la musique de voir à quel point, dans des pays où la musique est aussi bien protégée que l'Allemagne, les orchestres symphoniques permanents sont dissous, 3500 postes de musiciens supprimés dans les divers États allemands, et où ce sont à la place des formations provisoires, c'est-à-dire des intermittents du spectacle, comme le sont en France les orchestres baroques, qui relèvent tous de ce mode de financement où une partie travaillée est payée normalement et la partie chômée fait l'objet d'un système de chômage, d'indemnité particulier. Sauf que dans l'accord qui a été signé, il y a de nouveau aucune espèce de traitement du problème central qui est la triche. Et la triche, contrairement à ce que racontent un certain nombre de grognons et de ronchons, ça n'est pas la triche du petit technicien, comédien ou de Madame Deneuve dont on nous avait expliqué à tort, évidemment, qu'elle touchait des millions quand elle ne travaillait pas et des millions quand elle travaillait. C'est les employeurs. Et dans les employeurs, ce sont les sociétés audiovisuelles. J'entendais l'autre jour sur une chaîne télévisée spécialisée sur l'économie un ancien commissaire aux comptes de TF1 et de Canal+, qui expliquait comment il avait pour charge d'organiser cette triche et comment, en fait, les sociétés de production embauche des gens en leur disant « tu travailleras 6 mois et je te paierai, les 6 autres mois tu travailleras mais je ne te paierai pas, ce sera le chômage qui te paiera ». Cette triche-là est la triche essentielle, je ne comprends pas pourquoi ni les leaders de la coordination des intermittents, ni les responsables du patronat se refusent systématiquement à la mettre en avant et se retournent d'ailleurs une fois de plus les uns et les autres vers l'État pour qu'ils mettent 8 milliards dans cette affaire. Voilà. J'ajoute à ça que continuent cependant à menacer les festivals des gens qui ont été, ou les festivals et les représentations, et à envahir qui la Comédie Française, qui l'Odéon, qui ailleurs, des gens qui ont été proprement incapables d'avoir le courage de mettre ce problème-là au centre de leur activité. Nicole Niesoto.
Moi, je voudrais recommander le dernier petit essai de Dominique Moisy qui s'appelle « La géopolitique des séries », paru chez Stock il y a quelques semaines. Alors, c'est une analyse du monde et des relations internationales à travers nos séries télé préférées, Homeland, Downton Abbey, Game of Thrones, avec une analyse de nos peurs du terrorisme, la peur du mal en chacun de nous, la peur du fascisme en chacun de nous. Alors, c'est à la fois très très réjouissant, très intelligent et très inquiétant.
François Bujon de l'Étang.
Je voudrais attirer l'attention sur la remarquable exposition intitulé Apollinaire, le regard du poète, qui est en ce moment à l'Orangerie au musée de l'Orangerie jusqu'au 18 juillet. Guillaume Apollinaire est certes l'un de nos plus grands poètes et nous en avons tous appris par cœur des poèmes entiers, mais il était plus que cela. Il était aussi un critique littéraire et il était un œil particulièrement aigu sur la création littéraire de son temps. Et par-delà la personnalité d'Apollinaire, qui est fort bien mise en valeur par cette exposition, on voit ce personnage extraordinaire qui a noué des amitiés avec Picasso, avec Marie Laurencin, avec les peintres du fauvisme, qui a révélé Matisse, qui a révélé Goncharova au public français, qui a révélé Duchamp ou Picabia. C'est un homme qui était sans arrêt en éveil, qui est peut-être l'équivalent pour le XXe siècle en tant que critique artistique de ce que Baudelaire peut avoir été à la fin du XIXe. C'était une vigie qui captait toutes les émissions nouvelles et c'était un guetteur qui, au fond, n'était pas si mélancolique.
Sylvie Kaufmann.
Moi, je voudrais vous faire deux recommandations. D'abord, allez voir Les Habitants, le film de Raymond Depardon qui vient de sortir, pour entrer dans l'intimité de ces Français d'en bas, au nom desquels on parle tout le temps sans vraiment les écouter. Voilà, c'est passionnant et en plus, c'est une prouesse cinématographique. Et la deuxième recommandation, c'est d'acheter et de lire Le 1, l'hebdo, de mes anciens complices du Monde, Éric Fotorino et Laurent Grelzamer. Xavier Niel dit que c'est qu'il faut avoir un appartement dans le 16e pour pouvoir déplier ce journal. Ça tombe bien, il en a un, donc il peut le faire.
Les plafonds sont trop bas.
Mais même si vous n'avez pas un appartement dans le 16e, ça vaut la peine d'être déplié, en particulier les deux derniers numéros, un sur les jeunes, qui avec une interview très intéressante du sociologue Michel Fries, et puis le tout dernier numéro sur la Méditerranée et une de leurs journalistes qui a passé 10 jours en mer avec Frontex, et un vrai regard approfondi sur cette agence Frontex qui est censée protéger les frontières de l'Union européenne.
Je joins ma recommandation à propos de l'E1 à celle de Sylvie. Jean-Louis Bourlon.
Oui, moi je voudrais attirer l'attention sur le livre de Marcel Gaucher, Comprendre le malheur français, qui est une série d'interviews de réponses à Éric Conant et à François Assouvi. C'est un livre qui marche très bien et on le comprend parce que Gaucher n'est pas n'importe qui, il écrit bien, il a de la verve, il a de la culture, il a de l'argumentation. Et pourtant, je suis très sévère sur ce livre parce que je trouve qu'il illustre parfaitement la schizophrénie française. C'est-à-dire que d'un côté, Gaucher nous dit il y a des tendances très profondes qui fait que les Français ne sont plus du tout à l'aise avec eux-mêmes. Globalement, la mondialisation qui met en cause toute leur façon de penser, d'agir, etc. et l'effacement de l'Europe et de l'Occident dans un monde marqué un gigantesque pivot au profit de nouvelles puissances. Donc face à un tel constat, il faut imaginer des solutions de compromis, des solutions de synthèse entre notre passé, voir comment en s'adaptant on peut réconcilier notre passé avec l'avenir. Mais pas du tout. Sur ce fond d'analyse qui est très juste, Gaucher greffe une espèce de mise en accusation diabolisante des usual suspects, c'est-à-dire des eurocrates, des américains, des politiciens, des décentralisateurs, c'est-à-dire tout un ensemble de gens qui, par des choix malins, auraient en fait mis la France dans la situation impossible. Alors, il faut choisir, soit on est dans le complot, soit on est dans les pesanteurs profondes.
Je vous remercie, vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Crugère pour On ne parle pas la bouche pleine. Il reçoit Philippe Gosselin, boulanger-pâtissier, qui va tout nous dire sur le croissant ordinaire et sur le fait que le croissant ordinaire, et j'attire votre attention sur cette situation importante, le croissant ordinaire est menacé de disparaître. Ça n'est pas comme nous qui reviendrons la semaine prochaine, du moins je l'espère. C'était donc L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli et Anne-Sophie Pierry, avec aujourd'hui à la technique Célia Dufour. J'espère donc vous retrouver la semaine prochaine pour une émission comme le croissant, c'est-à-dire une émission ordinaire de L'Esprit public.